Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels.
Monsieur Humbert? Christophe, I presume? Cri-cri, je vous aime.
À Saint-Valentin, à toi que j'aurais aimé rencontrer si notre époque fut commune, pour se connaître plus si affinité, dans une barque ou sur la dune. À toi, Valentin, petit puis grand, dont le portrait tient entre mes seins, que touchent mes mains subrepticement pour des retraits qui me hantent sans fin. Depuis longtemps, sous l'habit, je me cache et rêve à ton noble capuchon, refuge d'un temps subi qui se lâche comme trêve sans permission. Saint-Valentin, je suppose tes éternuements là où d'autres ne font qu'atchoum. Ton entrain dépose mes atermoiements, signé la Carmélite de Bachung.
Salut Daniel Mermet, salut à tout le monde. En fait, voilà, contrairement à ce que tout le monde pense, à Montpellier aussi ça bouge. Je vous appelle là de la manifestation lycéenne qui a démarré ce matin. Et donc voilà, je crois que ça parle de soi-même. On est en tout cas pas du tout décidé à lâcher prise. Et si c'est ça la négative attitude, je vais être contre ce réforme, mais si c'est à manifester comme ça, ben alors oui, on a de la négative attitude et on le revendique et on le crie bien haut et fort. Salut.
Allô, oui, j'ai en train d'écouter la radio, là, puis j'entends qu'il y a des jeunes qui se révoltent, qui font des manifestations. Mais où va-t-on, là? Moi, je croyais que les jeunes, ils s'intéressaient qu'aux fringues de marque et à la Star Academy, qu'ils étaient complètement abrutis. Mais que fait le gouvernement? Que fait Sarkozy? Mais que fait Monsieur Fillon? Je trouve ça super, j'ai 40 ans et je trouve ça très rassurant pour notre avenir. Allez, bonsoir, c'était Marie du 04.
Voilà, c'est Mathias du lycée Racine, à Paris, dans le 8e. Donc voilà, nous on est mobilisés pour tout ce qui se passe en ce moment, la réforme Fillon, et pour plus tard, quand on sera un peu plus vieux, les 35 heures. Ben nous on se mobilise mardi et on espère qu'il y aura énormément de monde. C'est donc un appel à la mobilisation générale. 14h, place de la République à Paris. On espère qu'on pourra faire vraiment beaucoup de bruit et se faire entendre pour que pendant ce temps-là, le texte qui va commencer à être étudié à l'Assemblée puisse ne pas passer surtout. Parce que vraiment on va se battre pour garder le statut des ZEP, garder notre bac national, garder nos professeurs, nos infirmières, nos personnels de service, tout ce qui fait que l'école peut rester publique et égalitaire pour tous. J'espère qu'il y aura le plus de monde possible. Après il y aura même donc le cortège va de République à Denfert-Rochereau. Donc faut que tout le monde nous suive jusqu'à Denfert-Rochereau et pas s'arrêter à Bastille. Et j'espère donc vraiment qu'il y aura le plus de monde. Ciao.
Le débat à l'Assemblée commence demain. Le vote doit avoir lieu le 2 mars. Tout ça au beau milieu des vacances scolaires. Comment se fait-il que ces 20 dernières années, les réformes de l'école aient toujours été approuvées par la droite et souvent la gauche caviar, pas très pugnace ces temps-ci? Eh bien, on aurait tout de suite la réponse si les journalistes avaient le courage de demander aux hommes politiques, aux chefs d'entreprise, aux faiseurs d'opinion médiatique, où ils scolarisent leurs enfants. On verrait alors revenir les noms des mêmes collèges, des mêmes lycées, publics ou privés. Seraient cités quelques établissements de centre-ville, toujours les mêmes. Faire réforme ou pas, ça ne change rien pour leur progéniture. À l'abri de toute violence scolaire, propulsée vers la réussite à force d'environnement favorable et d'émulation. Les inégalités sont dans la société. L'école ne peut pas à elle seule les résorber, y changer la société. Monsieur Fillon peut bien faire passer sa réforme. Ses enfants et ceux de la plupart des hommes politiques et autres leaders d'opinion ne sont pas concernés. Nos enfants à nous n'ont qu'à continuer à se battre et à galérer pour s'en sortir. Les leurs sont à l'abri.
Message sur le répondeur de là-bas si j'y suis ce lundi au 01 56 40 37 37. Les messages qu'on vient d'entendre et les messages qu'on va entendre, que vous avez laissé sur le répondeur et que nous avons choisi avec Totov, dit Cricri, dit Humbert, à laquelle cette auditrice voue visiblement des sentiments bien tendres pour cette Saint-Valentin, eh bien tous ces messages peuvent illustrer notre émission du jour. Une émission, une heure qu'on va passer avec l'historien Marc Ferraud, que vous connaissez, et qui sort un bouquin tout à fait passionnant, qui raconte ce que font les individus face aux crises de l'histoire, et en l'occurrence, les crises et l'histoire du XXe siècle que Marc Ferraud connaît bien et que nous connaissons quand même encore tous assez bien pour l'avoir vécu ce XXe siècle, au moins en partie. Et que fait l'individu face à l'histoire? Eh bien, la plupart du temps, il vit sa vie, l'individu, il vit son histoire à lui avec un petit H, tandis que la grande histoire avec un H, eh bien, se passe de lui, parfois. Mais pas toujours, c'est pas toujours ces histoires parallèles, comme qu'évoquait Ionesco, entre nos vies à nous, privé d'histoire parfois, et l'histoire telle qu'on la raconte. Marc Ferraud s'est attaché à essayer de voir les moments où nous subissons l'histoire en tant qu'individu, en tant que personne, ou bien les moments où nous essayons d'agir sur l'histoire, où nous essayons de la chevaucher, l'histoire. Et ces messages, leur devrions dire, bon voilà, c'est une petite analyse, c'est une petite humeur, c'est une petite colère, c'est une petite... Oui, eh bien, les grands événements de l'histoire ont commencé ainsi, et il s'en est trouvé un certain nombre pour tout de suite se mettre sur le coup, si j'ose dire, et puis d'autres pour passer à côté, ce qui fait que par la suite, eh bien, ça fait des héros, ça fait des salauds, ça fait des collabos, ça fait des gens qui sont passés à côté. Et donc Ferraud traverse, parcourt ce XXe siècle encore une fois, puisqu'il le connaît si bien, mais cette fois à travers, par les individus, prenant ce siècle non pas comme un objet révolu, le passé pour Marc Ferraud, et j'aime bien la vision qu'il a. L'histoire, c'est pas du passé. L'histoire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. L'histoire, c'est l'événement, et c'est par exemple, cette grève de lycéens, ces manifestations de lycéens, c'est ce qui se passe actuellement au Togo, c'est ce qui vient de se passer à Beyrouth avec cet attentat, c'est ce qui se passe. Mais pas seulement les grands événements de l'actualité, c'est aussi nos vies à nous. Le grand H et le petit H, c'est jusqu'à 18h dans la base où j'y suis. Donc les individus face aux crises du XXe siècle, l'histoire anonyme avec Marc Ferraud. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base où j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, je suis consultant. Oh l'autre, oh le has-been, consultant, oh le has-been.
Bonjour, c'est un message de Hubert dans la Drôme. C'est pour ces chers consultants qui ont organisé la casse industrielle, la destruction des emplois, et puis qui aujourd'hui sont au chômage, qui viennent pleurer, ils n'ont pas honte. Mais à leur place, moi j'irais me pendre. Si vous voulez savoir comment on fait, vous demandez à Frédéric Dard, qui avait écrit un livre, ça s'appelle « Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants ». C'est une corde. Vous n'avez qu'à vous pendre au lieu de vous plaindre. Parce que finalement, vous organisez la casse, et puis maintenant, vous allez manifester avec les autres pour dire « C'est pas notre faute, on était obligés, c'était pas nous qui le faisions, c'était les autres ». C'est ce que disaient les SS dans les camps d'extermination. Si c'est pas nous qui l'avions fait, il y aurait eu d'autres candidats. Au revoir.
Oui, bonjour, merci pour toutes les émissions. Mais on sait toujours pas ce que c'est qu'un consultant, on sait toujours pas ce que c'est du consulting, des audits. Vous avez pas traduit les mots en anglais, on n'y comprend toujours rien.
Bonjour, un consultant, c'est quelqu'un pour vous dire l'heure, il regarde votre montre et vous fait payer la prestation. Je crois que c'est très proche. Salut!
Moi, je me souviens d'une certaine époque où on voyait la télé, Bernard Tapie, notre flamboyant Bernard Tapie, qui donnait des cours à des jeunes pour en faire des battants. Eh bien, ces gens-là ont vraiment l'air de gros cons maintenant, et je crois que battant consultant, ben même combat, Et dans quelques années, on dira tout simplement, finalement, les consultants, c'était des gros cons. Peut-être qu'ils auront changé, j'espère pour eux. Je vois avec plaisir que certains, effectivement, ont changé de camp, ont viré leur cutie, si je dis, ils ont fait leur coming out, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils allaient vendre leur âme. Pourvu qu'il y en ait beaucoup qui s'en rendent compte de ça. Salut Daniel, c'était Martial de Montlouis-sur-Loire. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Atway de Port-Vendre dans les Pyrénées-Orientales. Donc j'ai entendu le petit début de l'émission sur les consultants et je vais vous raconter une petite histoire sur les consultants. Donc j'ai un consultant qui se balade dans la campagne, il a une très belle voiture, il a un ordinateur, et il voit un berger, il va voir le berger, il dit « Bonjour monsieur, si je vous dis combien de bêtes vous avez dans votre troupeau, est-ce que vous m'en donnez un ?» Alors, le berger il dit « Bah ouais, pourquoi pas ?» Alors, il retourne à sa voiture, il prend son ordinateur, relié à un satellite, et puis il prend une photo du troupeau, qu'il a grandi, qu'il fait passer dans son ordinateur, qu'il compte, et il vient voir le berger, il lui dit « Voilà, il y a 221 bêtes. » Alors, le berger, il dit « Bah, c'est bien. Et tu peux prendre un mouton. » Alors, le gars, il prend un mouton, il remonte dans sa voiture, et puis le berger, il dit « Hey, si moi je te dis quel métier tu fais, tu me rends mon mouton ?» Alors l'autre, il dit « Pas de problème. » Il dit « T'as tes consultants, toi. » Il dit « Mais comment vous avez su ?» Il dit « T'es venu me voir, je t'ai pas appelé. En plus, tu viens m'apprendre quelque chose que je sais déjà. Et puis en plus, tu connais rien à mon métier, alors rends-moi mon chien. »
Alors qu'est-ce que je vous dis ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce que moi, je tiens à me signaler. D'abord, monsieur Mermet, je tiens à me présenter tout d'abord, parce que moi, je me l'appelle Popec. Tout d'abord, je tiens à vous dire que moi, je fais pas de playback. Je plais ou je plais pas, et puis c'est tout. Je voudrais savoir si vous voulez faire l'émission, tout de suite, pour savoir que je vous passe une amie à moi, qui est psychologue. Et les psychologues, et pour ça, elle arrive à rendre une connerie. Je vous la passe.
Et bonjour, je suis la psychologue. Alors, venez faire tous des psychothérapies chez Bibi.
De groupe ?
Et alors, vous serez...
Venez en cours, vous êtes tous en
cours. Complètement et vous serez enfin maître de vous-même.
Oui, ça
et votre inconscient.
Et la main dans la main.
Et votre subconscient.
Voulez-vous
et votre
ma fille
conscient.
Voulez-vous dire mon rêve,
et
ma fille,
le con.
Ah oui, tiens, j'ai pensé à celle-là.
Alors, vas-y, dis-moi.
Diron se souviendra toujours de sa première nuit d'amour quand Pierrot était si content qu'on avait levé du jour. Elle est psychologue Jasmine. Elle est psychologue et Jasmine Chacha. On peut dire ce qu'on veut, chez Monsieur Mermet.
Oui,
je dis Monsieur Mermet.
C'est expression libre chez Daniel Mermet.
Monsieur Daniel Mermet. Si j'étais à la République, je pourrais moi aussi dire vive l'émission, la belle qui j'y suis.
C'est beaucoup plus excitant que tout ça, là.
De plus en plus jeté, hein, ce répondeur. Là-bas, si j'y suis, avec Marc Ferraud, très sérieusement, les individus face aux crises du XXe siècle. Marc Ferraud, vous citez au début de ce bouquin, les individus face aux crises du XXe siècle, une phrase de Kafka dans son journal, à la date du 2 août 1914, Kafka écrit ceci. L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, point, après-midi, virgule, piscine.
Voilà. Oui.
Et tout votre bouquin repose là-dessus, c'est-à-dire l'événement le plus grave, le plus important du XXe siècle, hein, 2 août 1914, et puis la vie quotidienne qui a l'air absolument légère et frivole par rapport à cette gravité extraordinaire, mais cet après-midi-là, Kafka va à la piscine. Et au fond, le bouquin part de cette conflagration entre l'histoire et puis nos petites histoires à nous. Sauf que là, c'est pas nos petites histoires à nous. Vous dites, mais attendez, la vie de chacun, de l'individu, n'est pas une anecdote. Et vous remplissez ce siècle de regard sur le comportement des individus confrontés à l'histoire. Mais c'est pas seulement des anonymes, c'est l'histoire anonyme, le sous-titre du bouquin. C'est pas seulement des anonymes, c'est un nombre d'histoires, de cas, de personnes, d'individus confrontés à l'histoire.
Exactement. Et l'histoire, c'est-à-dire le présent qu'ils vivent, les événements qu'ils vivent. L'histoire, c'est pas comme beaucoup de gens continuent à le dire ou à le croire, mais à le penser. C'est pas uniquement l'époque de Louis XIV ou de Napoléon. N'est-ce pas? Il s'agit de notre siècle. Et les gens sont confrontés aux événements de notre siècle. Et j'examine la façon dont ils y participent, ou ils n'y participent pas, ou ils refusent d'y participer. N'est-ce pas? Dont ils sont ou aveugles, ou au contraire engagés. Ils auraient dit Sartre, etc. Donc c'est ça la trame du livre.
Au début du livre, il y a quatre mots. Aveugle, crédule, cynique et courageux.
Hein? Oui.
Alors, aveugle, crédule, cynique et courageux, tout le monde s'est reconnu ou a reconnu quelqu'un
dans le livre.
Oui, dans le livre, mais aussi toujours aujourd'hui, puisque aujourd'hui, pour vous, l'histoire, c'est le présent. C'est vrai que tantôt, on est aveugle à un événement et on passe à côté.
Ah bah là, il y a quand même l'exemple géant, si je puis dire, des Français d'Algérie. C'est vrai qu'ils ne veulent pas voir que l'histoire va, non pas forcément vers l'indépendance des Arabes, on disait comme ça, quoi, mais au moins vers un changement du statut des individus et des rapports entre Français et musulmans. Et les Français d'Algérie n'ont pas voulu le voir. Ils n'ont pas voulu le voir, mais dans l'inconscient, ils ont pu le sentir. J'ai donné quelques exemples qui prouvent que bien des Français d'Algérie sentaient qu'il se passait quelque chose, mais il fallait surtout pas en parler pour le susciter. N'est-ce pas? Une sorte d'exorcisme. Et par exemple, je donne, pour le montrer, cet exemple qui se trouve avoir été le cas de ma femme, qui était professeure de lettres, qui avait demandé un jour à ses élèves de quatrième, peut-être, donc 13, 14 ans, 15 ans, oui, de raconter un rêve. Et dans ce rêve, elle a été épouvantée de voir que beaucoup de ses élèves avaient rêvé d'être violés par un arabe.
C'était quand, ça, à quelle époque?
C'était en 49, 50, voilà. Ce qui témoigne que peut-être on voulait pas penser à l'avenir, mais que le danger, entre guillemets, arabe, prenait une forme ou une autre selon les gens. C'était un signal, n'est-ce pas, que beaucoup de gens ne voulaient pas voir. Donc ils étaient aveugles, mais aveugles et en même temps, quelquefois conscients quelque part.
Pour commencer le livre, vous dites on n'a pas d'assurance contre l'histoire. On peut avoir des assurances contre l'incendie, contre le vol, mais pas contre l'histoire. Donc ça voudrait dire qu'on l'a subi, cette histoire.
Non, on l'a subi, on peut y participer, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais il y a différents comportements. Vous avez des personnes qui refusent l'histoire. Quelquefois, c'est au niveau le plus vulgaire, le plus banal, n'est-ce pas? Nous connaissons tous des personnes qui écoutent la télé ou la radio, puis dès que c'est des informations, ils changent, ils coupent de chaîne, ils mettent une chanson, ou ils mettent je sais pas quoi, un divertissement. Bon, ça c'est vulgaire. Bien. Mais plus profondément, il y a des personnes qui, en pleine crise de l'histoire, c'est pour ça que j'utilise les crises, refusent l'histoire. J'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de ce couple qui vit près de Grenoble en 44, en juillet 44.
C'est au début du livre, oui.
C'est au début du livre. Et ce couple, n'est-ce pas, de un ingénieur et sa femme, avec leurs deux bébés, ils sont dans un petit hameau qui s'appelle Engin, près de Grenoble, où se sont planqués un certain nombre de jeunes qui veulent pas partir au STO, Service du Travail Obligatoire, en Allemagne. Et puis, quand on apprend en juillet 44 que les Allemands descendent pour investir le Vercors, c'est à la porte du Vercors, Engin, n'est-ce pas? Descendent pour investir le Vercors et qui rafle tout le monde, on le sait maintenant, hein. Et on le savait déjà à l'époque, avant juillet même, dès le mois d'avril. Tous y se tirent, sauf ce couple. Il a 25 ans, il est ingénieur à Grenoble, il est avec sa femme, son bébé, il est en vacances, là, comme ça, c'est l'été, n'est-ce pas? Et il dit, non, moi, je crains rien, je suis pas un terroriste. Je suis en règle, j'ai mes papiers. Et quand les Allemands arrivent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un officier visite les 3-4 maisons qu'il y a dans ce hameau, il tombe sur cet ingénieur, qui montre ses papiers, il est en règle, il est de Grenoble, il est ingénieur, il est pas terroriste, il ne craint rien, etc. Et l'officier allemand lui répond poliment parce qu'il parle un peu allemand, c'est un ingénieur. Il dit, oui, mais moi, je dois vous emmener parce que j'ai ordre de vérifier vos papiers en ville. Alors, on l'emmène. Il ne revient jamais. Et là, on a un exemple typique de quelqu'un qui ignore l'histoire. N'est-ce pas? L'histoire est là autour de lui. Elle arrive. C'est les Allemands qui ont raflé tous les jeunes. Et lui, il est pas vieux. Il a 25 ans, 26 ans, j'en sais rien, vous voyez. Mais il refuse. Non, moi, je suis en vacances. Il dit, vous avez des gens comme ça qui refusent l'histoire qui est autour d'eux. Ils croient qu'ils vivent à part. Voilà. Alors ça, c'est un cas. Je peux dire un extrême. Alors, il y a un autre extrême, qui est ceux qui croient qu'ils sont l'histoire eux-mêmes, qu'ils incarnent l'histoire, qu'ils agissent dans l'histoire. C'est les militants, essentiellement. Aujourd'hui, c'est les militants. Enfin, hier, en sens, c'est les militants.
C'est le journaliste aussi, un petit peu.
Alors oui, maintenant, les journalistes, ils sont entre les deux. Nous allons voir.
Vous en occupez.
Oui, c'est plutôt les, disons, les militants, parce que les militants incarnent l'histoire. Je donne l'exemple de la femme de Kamenev, qui est arrêtée, n'est-ce pas, Kamenev, en 1928, par Staline, qui se trouve être la sœur de Trotsky, donc deux fois menacée, puisque Trotsky est en exil à cette époque-là, à Alma-Ata. Et quand un journaliste italien vient l'interviewer ou vient lui demander « Est-ce que tu ne crains pas pour toi ?» Elle lui répond « La classe ouvrière saura se défendre. » C'est-à-dire que c'est pas elle qui est en cause, c'est la classe ouvrière. N'est-ce pas ? C'est son histoire, la classe ouvrière, incarnation de l'avenir de l'humanité, etc., etc. Et quelques années après, elle est emmenée, elle est déportée, etc. Mais elle croit, n'est-ce pas, qu'elle est une partie des gens qui font l'histoire. Et c'est vrai, d'ailleurs. Mais elle s'identifie à cela. Donc ça, c'est deux cas extrêmes. Et alors, comme vous disiez... les journalistes sont souvent les deux, parce que leur boulot, c'est quand même de vivre dans l'histoire, enfin dans l'actualité au moins, n'est-ce pas, dans les crises. Mais il n'y a pas que les hommes d'affaires aussi vivent dans l'histoire, parce qu'il faut qu'ils suivent le cours de la bourse, que les marchés qui s'ouvrent, qui se ferment, les militaires, ils ne sont jamais s'il y a une guerre. Donc, il y a des catégories de gens qui, j'allais dire, sont brevetés pour analyser un peu...
Les historiens.
Ah oui, mais les historiens, le plus souvent... ils s'enferment dans le passé, n'est-ce pas ? Alors, les meilleurs, à mon avis, savent du passé voir les racines du présent. Et dans le présent, retrouver les racines dans le passé, c'est vrai. Mais disons qu'ils sont moins dans l'actualité que le sont, disons, des catégories sociales que j'ai dites.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain « Y a-t-il des salauds parmi nous ?»«
Cause, cause, cause !»«
Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain !»
Il y a le temps pour cette musique que vous entendez, extraite d'un film de Fritz Lang, musique qui évoque la grande épopée, les grands moments, la grande distance vis-à-vis de l'histoire. On est ainsi dans la salle, on regarde ces images avec émotion, mais c'est loin de nous, c'est l'histoire, c'est un objet, c'est une émotion. Mais qui sommes-nous ? Est-ce qu'on est celui qui condamne la résistance, Philippe Pétain, ou bien est-ce qu'on est celui qui lutte contre Pétain, c'est-à-dire Pierre Dac, qu'on vient d'entendre ? Est-ce qu'on est celui qui refuse l'histoire, qui passe à côté de l'histoire, ou bien celui qui incarne l'histoire ? Parce que Pierre Dac, à un moment, a cru qu'il pouvait quelque chose contre l'histoire, qu'il pouvait tout, parce que c'est pas une petite participation. Dans son cas, c'est vraiment un homme qui s'investit complètement. Voilà le thème du livre de Marc Ferraud. Que font les individus face à l'histoire ? Aveugles, cyniques, conscients ou courageux ? C'est selon. Alors vous avez l'air de nous dire qu'on peut pas se soustraire à l'histoire.
Non.
Dans quelle mesure on peut agir sur l'histoire ?
Tout dépend d'abord des circonstances. Disons que chaque situation historique donne à des tas de gens la possibilité ou de sortir de l'histoire, quelquefois à leur dépens, n'est-ce pas ? De participer à l'histoire. Enfin, j'ai pas pris l'exemple, puisque j'ai examiné plusieurs crises, n'est-ce pas, dans ce livre. J'ai examiné la révolution russe, la montée du nazisme, l'occupation allemande en France...
L'Algérie,
et puis les crises économiques de 29 en Amérique, etc.
Le siècle. Le siècle des extrêmes.
Alors, si je prends le cas de la France, que tout le monde connaît un peu mieux que le reste, n'est-ce pas ? Alors, quels sont les premiers qui ont, au fond, une décision à prendre ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, les gens qui ont à prendre des décisions. les premiers qui vont prendre des décisions, c'est le jour où, le 16 juin, ils apprennent par la radio que la France va cesser les combats, la locution de Pétain. Donc ils vont être faits prisonniers, ou ils vont rentrer chez eux, ou ils vont être prisonniers, mais il faut s'enfuir avant, ou il faut se laisser faire, la guerre est bientôt finie. Chacun se pose ses questions. Et je repère, mais d'autres historiens ont fait avant moi, n'est-ce pas? Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, ceux qui ont pris des décisions, j'allais dire, contre vents et marées. Par exemple, ceux qui veulent pas être prisonniers, tout de suite, et qui s'évadent. Alors on voit qu'il y a beaucoup de soldats, mais qu'il y a peu d'officiers. Je sais pas, j'ai donné l'exemple d'un officier qui veut s'évader, et qui va être célèbre plus tard, puisque c'est Fresnel, n'est-ce pas? Mais il demande à ses copains de le suivre, ses collègues, hein, autres sous-lieutenants et autres, ils veulent pas, vous voyez? Ils veulent pas, il est seul à s'enfuir. Et puis alors, parmi les généraux, ben, il y en a trois ou quatre, dont un quand même plus connu que les autres, qui brutalement va faire irruption dans l'histoire en disant non, c'est De Gaulle, mais il n'y a pas que lui, il y en a trois, quatre. Il y en a un qui va se balader dans sa voiture dans la zone sud, et distribuer des tracts, préparez-vous à vous défendre jusqu'à ce que on l'interdise de continuer. Vous voyez, ce que Vichy l'interdise de continuer. Donc, j'ai voulu saisir tout ce qui s'est passé à partir du 16 juin chez tous ceux qui avaient été soldats, officiers et autres. Bon, puis après, je suis passé aux politiques. N'est-ce pas? À Vichy. Mais j'ai pas commencé tout de suite par l'histoire de Vichy, du changement de régime, parce que, excusez-moi, mais moi, j'avais 16 ans à l'époque, ou 15, je sais plus. Et quand on a fait l'exode, que je raconte, n'est-ce pas? Et quand on rentre chez soi en juillet, etc., la nature du nouveau gouvernement qu'il y a, personne ne s'intéresse à ça. Moi, je veux savoir si mon cousin qui était aux armées, est-ce qu'il est prisonnier, est-ce qu'il n'est pas prisonnier, est-ce que j'aurai du travail au retour, pense mon oncle ou mon cousin. Les gens pensent à ça au début. Mm-hmm. Ils pensent pas si le régime est républicain ou pas républicain. Ceux qui pensent à ça, c'est les hommes politiques, les journalistes. Mais pendant 15 jours, un mois, 3 mois, c'est pas ça qui concerne la majorité des Français. Et c'est ça que je veux montrer, si vous voulez, que c'est plus tard qu'ils prennent conscience des choses et qu'ils vont participer ou non à la résistance, au régime ou autre chose.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde, que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkine. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. Leur carabine, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on unit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkine.
Marc Ferraud, toute la première partie du bouquin, c'est la révolution russe. Oui. C'est une époque que vous connaissez comme votre poche. Et on est quand même frappé parce que vous nous racontez sur l'extraordinaire aveuglement lorsqu'on, assez vite, un certain nombre d'observateurs, de témoins, nous racontent le virage du régime. Hein. Ça commence par une extraordinaire allégresse, dites-vous, cette révolution d'octobre, de février 1917, et puis, un an plus tard, la terreur rouge et blanche, vous dites bien, s'installe, et là, on a un certain nombre d'observateurs, de personnages engagés, vous évoquez Victor Serge par exemple, indiquent quelle est la véritable nature de ce régime, et vous avez des descriptions de l'aveuglement obstiné de ceux qui ne veulent pas voir l'histoire.
Oui, alors, entre autres, ceux qui ne veulent pas voir l'histoire, c'est ceux qui ont été émerveillés par le triomphe de la révolution de février puis d'octobre, et surtout de février, la chute du tsarisme, qui partent en Russie comme des pèlerins, si j'ose dire, pour voir comment ça a été possible d'abattre le tsarisme, de donner le pouvoir au peuple. Je dis bien de donner le pouvoir au peuple, parce que le parti bolchévique ne révèle sa toute-puissance sur les soviets que peu à peu, en octobre et après, ce sont les comités, n'est-ce pas? Alors vous êtes ici à la radio, mais il y a un comité des théâtres, n'est-ce pas? Où dans chaque théâtre, les comédiens, les machinistes, tout le monde vont choisir les programmes. Ce sera plus le directeur. Partout il y a des comités. Donc c'est vraiment une révolution par en bas où les groupes sociaux les uns après les autres prennent le pouvoir. Et puis peu à peu, par des mécanismes politiques que j'ai décrits, le parti bolchévique va aspirer pour lui tout ce pouvoir. Et ce que les gens voient, comme Victor Serge, c'est que peu à peu, une terreur par en haut s'institue. Et pas seulement la terreur du ressentiment, de la violence des paysans qui n'en peuvent plus et qui font brûler les fermes de leurs maîtres, n'est-ce pas ? Ou les ouvriers qui incarcèrent quelques-uns de leurs patrons qui n'ont pas voulu les augmenter alors qu'ils avaient tous servi de misère. Ça, c'est le ressentiment et la colère. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas et qu'on ne veut pas voir dans les milieux dirigeants, c'est que précisément les dirigeants bolcheviques, peu à peu, absorbent la totalité du pouvoir et instaurent leur propre dictature. Et Victor Serge le sent, ça. Il le sent, mais il peut pas le croire. Parce que toute cette famille de révolutionnaires avait les mêmes idéaux, de liberté, de démocratie, de ceci, de cela. Et ils n'avaient pas perçu, si je puis dire, la spécificité du bolchevisme, c'est-à-dire d'un régime qui se croit l'incarnation de la science des hommes. On va guérir la société de ses maux, comme les médecins guérissent les patients, les malades. Donc, quand on prend des décisions, on n'a pas à les discuter. On ne discute pas l'injonction d'un médecin en 1920, n'est-ce pas ? Et comme les marxistes se croient l'incarnation du savoir sur les sociétés, il est sûr que Lénine se comporte en médecin social, n'est-ce pas ? Il y a une classe sociale qui interdit le progrès, c'est la bourgeoisie, on supprime la bourgeoisie. Comme un chirurgien supprime un bras, n'est-ce pas, qui a été
gangréné.
Gangréné, voilà. C'est pas seulement de la haine sociale, c'est une vision de l'histoire. Et beaucoup de communistes, pendant des décennies, vont croire qu'ils incarnent le savoir sur l'histoire.
Le hasard voulut que le même jour du 18 juin, étant blessé à Sainte-Madeleine de Moulins-sur-Valdier, les Allemands attaquant la ville, je me suis trouvé devant un dilemme. Ou je suis prisonnier, ou je garde ma liberté pour combattre. C'est ce que j'ai fait. J'ai gardé ma liberté pour combattre. J'ai rejoint le Limousin avec la volonté d'amener tous les paysans de cette région à la lutte contre Pétain.
Voilà, cet homme est peu connu, injustement méconnu en France. Il s'appelle Georges Guingouin. On l'entend là au micro de Geneviève Hutin de France Culture. C'était en août 2000. Georges Guingouin est une des figures les plus superbes, les plus héroïques, les plus valeureuses de notre histoire française. On va l'évoquer avec Marc Ferraud et il est bien dans cette histoire, dans ce réservoir d'histoire qu'est le bouquin de Marc Ferraud, Les individus face aux crises du XXe siècle. Guingouin qui, dans son Limousin, dans sa solitude, dans sa conscience, dans son âme et conscience, va devenir le premier maquisard de France. Ensuite, il sera en butte à ce qu'on pourrait appeler des persécutions, enfin la volonté d'annihilation contre lui entreprise par le Parti communiste qui ne le réhabilitera qu'en 1998 après qu'il ait été nommé compagnon de la libération par Charles de Gaulle en 1945. C'est une figure tout à fait merveilleuse, héroïque. Oui, je dis bien merveilleuse parce que si vous allez dans ces coins du Limousin, vous verrez qu'il a laissé des traces. Il est issu de l'histoire locale et il a laissé des traces durables dans cette région. On continue cette heure avec Marc Ferraud.
Guingouin qui lui refuse ce savoir de ses dirigeants.
Évoquez, attends, arrêtons-nous un petit peu sur Georges Guingouin, parce que c'est un, vous en parlez assez longuement dans le bouquin, et ça vaut le coup peut-être d'évoquer un peu ce personnage.
Que nous avons entendu les noms de nos 10 jeunes camarades morts au combat, ici même, le 18 juillet 44. Les 97 tués et blessés lors de la bataille du Mont Gargan ont été bien oubliés. Quant à nous, ici, dans ce secteur, verso de la résistance limousine, et lors de nos commémorations, sur le sommet du Mont Gargan, lieu historique, flottera à côté de la pierre de mémoire le drapeau que nous avons lavé du déshonneur, le drapeau français.
Ben oui, Guingouin, c'est un militant communiste de la base, c'est un instituteur d'un petit village de il est mobilisé comme, bien qu'il n'y ait pas de germano soviétique, tous les communistes ont fait leur devoir, c'est pas, ils répondent à la mobilisation, et puis il réussit, au moment où il va être prisonnier, hop, il réussit à ne pas l'être, n'est-ce pas? Et il est surpris que, à cette époque, donc juillet 40, le Parti communiste, dont il est quand même un membre obscur, mais il fait partie du réseau des dirigeants locaux, donc il reçoit des directives, il reçoit des petites publications en douce. Ce Parti communiste, il veut d'abord le reconstituer, comme le Parti communiste veut se reconstituer. Il avait été dissous par Daladier en 39-40. Il veut le reconstituer, et le pacte germano-soviétique fait croire aux dirigeants communistes que on peut peut-être demander aux Allemands un petit coup de main, puisqu'ils s'entendent bien avec les soviétiques. Alors lui, il dit, ça je comprends pas, c'est inadmissible. N'est-ce pas? On est occupés. Hein, on doit se défendre. On est aussi des Français. On n'est pas que des communistes. Et ça, c'est un langage que le parti, enfin les dirigeants du parti qui survivent, parce qu'à cette époque, tout a éclaté, hein, il en reste que quelques-uns, n'admet pas. Et il est blâmé.
À cette époque, au Parti communiste, il faut faire attention, je vous parle de juillet 40, je vous parle d'août 40, de septembre 40, j'étais pas en contact avec l'appareil clandestin du parti communiste. J'ai été en contact avec ce qu'on appelle la Paris illégale qu'en septembre 40, où d'ailleurs j'ai eu des responsabilités sur la base de la Haute-Vienne du Parti communiste français. Alors la position de Jacques Duclos était tout à fait différente, parce que dans les humanités que nous avions à reproduire, sur l'humanité clandestine, noir sur blanc, on pouvait voir ni Londres, ni Berlin, abat la guerre impérialiste, et on nous disait Torres au pouvoir. Alors, c'est vraiment inconcevable qu'en 40, on dise Torres au pouvoir. Enfin, finalement, Duclos m'a renvoyé un document à reproduire rien qu'au cadre du parti, et qui est le numéro 9. Et dessus, j'ai lu à ma stupéfaction, il ne faut pas faire d'acte isolé, comme tout acte de résistance au début est naturellement un acte isolé. Et surtout, nous devons être sans haine vis-à-vis des soldats allemands. Quand j'ai vu une pareille chose, le ciel m'est tombé sur la tête et j'ai refusé de reproduire pour toute cette région-là ces directives. Et j'en ai informé Jacques Duclos. Ça a été mon premier accrochage au point de vue théorique avec le Parti communiste dès le début de la fondation. Nous n'avions pas du tout la même position. Moi, je considérais que notre devoir était de lutter et de combattre à travers les masses immédiatement.
Évidemment. Quand l'URSS est envahie, à ce moment-là, le parti va défendre à la fois l'URSS et lutter contre l'occupant, c'est-à-dire les Allemands. Et lui, là, il est dans le courant. Il est dans le courant, mais on se rappelle qu'il a désobéi aux directives. Et lui veut montrer qu'il avait raison. Et que le parti avait tort.
On ne lui pardonnera jamais.
Jamais. Oui. D'autant plus qu'il désobéit une deuxième fois aux injonctions du parti, qui en 44, lui commande de prendre Limoges. Et lui, avec ses maquisards qui sont au travail depuis 3-4 ans, il sait que c'est pas possible, que ce sera un massacre. Et effectivement, à Tulle, où les gens obéissent aux injonctions des dirigeants des FTP, n'est-ce pas, c'est un massacre. Donc il a eu une deuxième fois raison, puisqu'il va libérer Limoges sans qu'il y ait de massacre, ni d'un côté, ni de l'autre, vous voyez. Et le parti ne lui pardonnera pas, il va être excommunié, n'est-ce pas. Et c'est ça le drame, si je puis dire, de quelqu'un qui veut montrer que Le parti qui a toujours raison a eu tort.
Mais jamais récupéré non plus, Georges Guingouin. Il sera pas récupéré par les libertaires, ni par les socialistes, ni par les trotskistes, ni par personne.
Non, mais il est communiste, soit. Mm-hmm. Il a toujours été communiste, il reste communiste. Mais en guérilla, en rébellion contre les dirigeants de son parti.
On n'a pas beaucoup de figures comme ça. Hein. C'est pas fréquent, des Guingouins.
Non, c'est pas fréquent, et c'est pour ça qu'il méritait d'être mis en valeur, parce que l'histoire officielle, ou bien gaulliste au début, ne glorifie que la résistance extérieure. Hein. Vous êtes journaliste, vous avez pu remarquer que on parle beaucoup plus dans les années 50, 60, 70 des généraux Delattre, Leclerc, Leclerc, Delattre, Delattre, Leclerc, Leclerc, Delattre, que des résistants de l'intérieur, Ravanel à Toulouse ou autre, ou Guingouin. Donc l'histoire officielle gaulliste ne parle que de la résistance extérieure, parce que De Gaulle avait peur que les communistes ne prennent le pouvoir grâce à la résistance intérieure, n'est-ce pas? Ou alors c'est les communistes qui glorifient leurs propres résistants, et c'est très bien comme ça, et du coup les excommuniés et les isolés, on n'en parle pas.
Les individus face à l'histoire, alors on a dit les aveugles, les crédules, les cyniques et les courageux, je reprends les quatre termes que vous employez dans la préface, mais on peut être tantôt courageux puis devenir aveugle, puis
passer
d'aveugle à crédule, de crédule à cynique,
redevenir. C'est pour ça que c'est pas un livre de psychologie historique.
C'est ça. Et ce que vous nous dites aussi, c'est que nos comportements, les comportements des uns et des autres, je dis nos comportements, en reprenant votre idée que l'histoire, c'est aujourd'hui, elle se fait aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qu'on aurait dû faire à leur place, se remettre à leur place pour savoir ce qu'on aurait pu ou dû faire, c'est qu'est-ce qu'on fait, évidemment, aujourd'hui. Et ce qui devient de l'histoire, ce qui devient événement, ce qui devient important, on ne sait pas au moment où ça survient. On ne sait pas toujours quand ça survient.
On ne sait pas toujours. Seulement, on peut, en quelque sorte, grâce à la connaissance du passé, récent ou plus lointain, de cette façon, préméditer ce qui peut se produire. Oh, on le voit bien aujourd'hui. On le voit bien aujourd'hui, nous sommes très vigilants, n'est-ce pas, sur les remontées du nazisme ou autre chose, dès qu'elles se manifestent, on se dit attention, il y a le feu, ou il peut y avoir le feu. Donc l'histoire passée, si on la connaît, nous rend vigilants. Ceux qui la connaissent pas, ils remarquent rien.
Moi, disons-nous, mon ami, mon bon ami Bertolt Brecht, nous n'avons jamais appris qu'est-ce que veut dire vraiment l'expressionnisme. Après la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique.
L'homme qui parle, cette voix qui dit « Nous n'avons pas pensé à l'esthétique », mon ami Bertolt Brecht et moi-même, c'est Fritz Lang, le cinéaste Fritz Lang, qui voulait être utile, qui voulait, comme certains des figures, des individus évoqués par Marc Ferro dans son livre, se coltiner à l'espoir. Bah oui, c'est le lapsus qui vient automatiquement en lisant ce bouquin avec l'espoir que l'histoire permettra d'agir sur le présent. C'est vrai que hier à Dresde, il y avait une manifestation quand même de 5000 jeunes nazis dans cette célébration du bombardement de Dresde par les alliés il y a 60 ans. 5000 jeunes nazis 60 ans après. Il se pourrait bien que nous ayons affaire avec l'histoire. Vous avez un chapitre sur l'Allemagne nazie. Je rappelle que le bouquin suit le 20e siècle, les grands événements les plus brûlants du 20e siècle. Et vous, sur le chapitre sur l'Allemagne nazie, vous posez une question qui reste en grande partie sans réponse. Comment la société allemande, sans doute la plus cultivée d'Europe, a pu enfanter d'une telle monstruosité?
Oui, c'est une question qu'on se pose tous et que les Allemands se posent aussi. Il faut quand même constater, pour avoir que autant les Allemands qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale, globalement, ont refusé d'analyser leur propre comportement et ont cherché toutes les échappatoires pour se déculpabiliser de ce dont les Alliés les accusaient. N'est-ce pas ? On n'était pas au courant, on savait pas, etc., etc. Et même, au contraire, pour se glorifier. Nous n'avions pas mérité ça, c'est-à-dire la défaite. Ça, c'est-à-dire les bombardements. Les derniers rapports de SS que je cite, n'est-ce pas, disent que la plupart des Allemands, en avril 45, donc avant la mort d'Hitler, disent « nous n'avons pas mérité cela, on a toujours obéi à nos gouvernements, on a fait notre devoir, on n'a rien fait qu'il fallait pas ». Et cette manière de voir aussi nous fait réfléchir sur l'obéissance à l'État, sur l'obéissance aux officiers, sur l'obéissance à ceux qui sont censés incarner les devoirs de la morale, de l'autorité, etc. Donc, ces Allemands, pendant longtemps, ont refusé de voir, sauf quelques isolés, que je cite, bien sûr. Mais petit à petit, il y a eu quand même un changement, il faut commencer par le dire, c'est que les Allemands, la deuxième génération, si je puis dire, dès les années 68, 70, 15, les enfants, souvent de ces Allemands de la Deuxième Guerre, en voyant par exemple le film Mein Kampf de Leiser, subitement ont réalisé ce qui s'était passé et qui leur avait été plus ou moins caché. Et il y a eu un retournement, et aujourd'hui, surtout depuis une trentaine d'années, il n'y a aucune nation qui ait autant, si je puis dire, exprimé sa repentance, son repentir devant les crimes commis pendant les années de guerre. Donc ça, il faut commencer par le dire. Il faut dire aussi que résister en Allemagne à l'époque d'Hitler, c'était vraiment un acte de grand héroïsme. Et je donne beaucoup d'exemples de ces actes.
On connaît mal hein, cet aspect de l'histoire.
Oui,
quand même,
on le connaît mal parce que d'abord, on pouvait pas le connaître pour autant que nous n'avons vu que les aspects négatifs. Et on se rendait pas compte qu'en Allemagne, résister à Hitler, c'était quasiment impossible. D'ailleurs, quand des gens se réfugiaient d'Allemagne en France en 39-40, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait? On les internait. Avant tout, pour nous, c'était des Allemands. C'était pas des anti-nazis. Je dirais entre guillemets, même si c'était des Juifs. Ils étaient suspects. Moi, je me rappelle en classe élémentaire, en primaire, il est arrivé un petit Allemand. On est en 36, 37, 38, vous voyez, juste avant guerre. Ce petit Allemand, il est israélite, c'est pas? Il était gentil. Il était doué. Très vite, il a appris le français. Et bien que l'instituteur nous ait dit qu'il fallait être gentil avec lui, on le regardait comme un Allemand d'abord, donc suspect. Comme le dit le cinéaste Fassbinder, qui est un grand psychologue, le seul fait qu'on nous ait dit qu'il fallait être gentil avec lui, le rendait suspect.
Mais vous citez une chose que j'ignorais complètement sur Fritz Lang.
Oui.
Comment Fritz Lang est convoqué par Goebbels,
oui,
alors que Fritz Lang est juif,
oui,
c'est un grand cinéaste à l'époque, et Goebbels se dit que ce serait quand même bien d'avoir un talent pareil à sa disposition, et comment Fritz Lang lui dit, écoutez, laissez-moi 24 heures pour réfléchir, et il se tire.
Oui, il prend le train et il finit à Paris, absolument. Oui, oui. Oui, oui. Ben, écoutez, je pouvais pas traiter le cas de Fritz Lang tout seul, parce qu'autrement, on ne voit pas le dilemme. Je faisais pas une histoire de cinéma. Hein. J'ai pris Fritz Lang et je l'ai comparé à Pabst, qui était un autre grand cinéaste, et puis à un troisième, etc. Fritz Lang a parfaitement compris la nature du nazisme, le racisme et tout. Il est juif, oui, bien sûr, mais sa femme est nazie. Pierre von Harbou, et c'est elle qui écrit les scénarios. Ça arrive que dans une famille, il y ait un qui soit à gauche et l'autre qui soit à droite.
C'est mais pas là, c'est quand même, oui.
Ah oui, mais c'était avant 33. C'était dans 28, 27, 29. Donc on ne sait pas encore que la fleur est vénéneuse à ce point, n'est-ce pas? Donc, ils font des scénarios à deux, et puis, lui, il est plutôt porté vers la gauche, il est socialiste, au fond, social-démocrate, mais pas de façon active, n'est-ce pas? Et il voit bien l'essence du nazisme, et dans le film M. le Maudit, il identifie les nazis aux truands, hein. Bon. D'ailleurs, Hitler l'a bien senti, qu'il reprend les gestes des truands dans ses premiers discours des années 32-33, on le voit. Bon, alors, il pousse un peu plus loin, et en 32-33, il fait le docteur Mabuse, qui est un savant fou, n'est-ce pas? Et les paroles qu'il met dans la bouche du docteur Mabuse, c'est des phrases de Hitler. Alors là, il y a une agression évidente. Et quand il est convoqué par Goebbels, ben, il croit que son compte est bon, puisqu'on est en mars 33, deux mois après la prise du pouvoir, il pense que son compte est bon, et au contraire, Hitler, qui a beaucoup admiré M. le Maudit, qui a beaucoup admiré les Nibelungen, qui a beaucoup admiré les traits de films de Lang, veut le mettre à la tête du cinéma, et Göring a cette phrase, il dit, les juifs, c'est nous qui décidons qui est juif, qui n'est pas juif. Mais il n'est pas dupe, Fritz Lang. Et donc, comme vous l'avez dit, il file. Alors que Pabst, social-démocrate, lui, il va partir aux États-Unis aussi, mais parce qu'il avait un contrat. Puis ça marche pas, il revient, il reste. Et tout social-démocrate qu'il a été, alors qu'il avait combattu Hitler dans ses films, et surtout les idées hitlériennes, pendant les années 25, 30, etc., par des tas de films pacifistes et autres, n'est-ce pas? Eh bien, il va rester en Allemagne, et il va faire des films où, à la fin, vers 40, les dialogues sont très troubles. Et il y a une légère adhésion à des, à une idéologie nazie. Alors voilà deux comportements différents de gens qui sont, si je puis dire, équivalents.
Voilà beaucoup d'autres histoires dans ce livre d'histoire de Marc Ferraud qui vient de sortir, Les individus face aux crises du XXe siècle. L'histoire anonyme, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à Marc Ferraud. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et pas plus. Technique aujourd'hui Antoine Viossa et Michel Thomas. L'équipe de la Basse J'y suis, c'est Pascal Le, Pascariello, Yann Chouquet, Antoine Chao. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Imbert qui veille au grain. On se retrouve demain à 17h pour la Basse J'y suis. Après 1 minute et 08 secondes de réclame, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau à demain 17h. Salut!